Radio, bienvenue dans cette émission. 24 octobre 1945, 24 octobre 2020, les Nations Unies vont totaliser ce samedi 75 ans depuis leur création. Membre à part entière de cet espace mondial dont la mission est de réguler les relations internationales, la RDC est l'un des pays où cette organisation a déployé l'une de ses missions de paix les plus importantes que la MONUSCO. Quel bilan dressé de la présence onusienne en RDC sur le plan sécuritaire et humanitaire? C'est la question du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Julien Paloukou, il est ministre de l'Industrie. Il a été gouverneur de la province du Nord-Kivu pendant 11 ans. Bonsoir, monsieur le ministre Julien Paloukou.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Professeur Jacques Dioli, il est député national et inspecteur général du parti politique MLC. Il est professeur de droit constitutionnel et ancien vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Bonsoir, professeur Jacques Dioli. Bonsoir, professeur Jacques Dioli. Voilà, apparemment, il n'est pas encore là. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonsoir, monsieur Dismas Kitenge.
Bonsoir, Guy Maté. Et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
24 octobre 1945, 24 octobre 2020, les Nations Unies vont totaliser 75 ans dans deux jours. Membre à part entière de cet espace mondial dont la mission est de réguler les relations internationales, la RDC est l'un des pays où cette organisation a déployé l'une des missions de paix les plus importantes qu'est la MONUSCO. Les détails avec vous, Dora Madimba.
C'est dans exactement deux mois que se clôture le mandat qui régit actuellement la MONUSCO en RDC. Signé en décembre 2019 pour un an, c'est la 21e année que cette mission de l'ONU créée pour aider la RDC à solutionner les crises multiples qui l'accablent depuis de nombreuses décennies a été prolongée. À ses débuts, la MONUSCO se nomme MONUC, mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Cette mission aide le pays à récupérer son unité et à organiser en 2006 les premières élections démocratiques après les années de dictature du régime Mobutu. En 2010, la MONUC devient MONUSCO, dont une des missions est le soutien pour le deuxième cycle d'élections démocratiques et la stabilisation du pays. En 2014, une brigade d'intervention est ajoutée à la MONUSCO et est encore en vigueur aujourd'hui. La MONUSCO aujourd'hui, c'est un budget proche d'1 milliard de dollars et 14 000 militaires. On reproche régulièrement à la MONUSCO de n'avoir pas pu mettre fin à l'insécurité en RDC et les autorités de cette mission onusienne rappellent aussi que cette mission revient avant tout à l'armée congolaise elle-même, la MONUSCO venant en soutien.
Merci à vous, Dona Madimba. Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie. Vous avez été aussi gouverneur de la province du Nord-Kivu pendant 11 ans. Et avant d'évoquer les cas de la RDC, un mot au sujet de l'apport des Nations Unies dans le monde. À la création de cette organisation supranationale, le 24 octobre 1945, les premiers objectifs étaient le maintien de la paix et la sécurité internationale. Et on se rappelle cette série de conflits qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, les conflits liés au contexte de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. On se rappelle les différentes guerres d'indépendance des pays africains. On se rappelle aussi le nouvel acteur qui est apparu sur la scène internationale après la fin de la guerre froide, le terrorisme international. Il y a aussi l'insécurité récurrente, notamment en RDC. Et au vu de ces tableaux sombres, peut-on affirmer que les objectifs premiers des Nations Unies, à savoir le maintien de la paix et la sécurité internationale, n'ont pas été atteints effectivement?
Oui, mais merci beaucoup. Je pense que vous-même, vous avez la réponse à la question. Parce que pour évaluer une mission ou un service ou une institution, il faut d'abord connaître ses objectifs. Vous avez rappelé que parmi les objectifs, il y a le maintien de la paix, il y a la sécurité internationale. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir, 75 ans après, est-ce qu'il y a la sécurité au niveau international? Est-ce qu'il y a la paix dans tous les pays? Je dirais d'emblée non, parce que lorsque vous faites l'analyse des questions à travers le monde, vous allez vous rendre compte que cependant que les Nations Unies existent, que la Yougoslavie en pleine Europe au XXe siècle a éclaté en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Monténégro, en Kosovo. C'est en pleine existence des Nations Unies que, à côté de nous ici, au Rwanda, il y a eu les génocides les plus criants de l'histoire de l'humanité. C'est avec les Nations Unies qu'il y a eu la guerre en Irak, en Iran, la guerre de Syrie. C'est avec les Nations Unies que finalement, même en RDC, nous avons toutes ces guerres, l'AFDL, les RCD, les Maïmaï, les CNDP, les M23. Donc globalement, l'évaluation objective, si elle est faite par rapport aux objectifs, on se rendra compte que les 193 États qui forment les Nations Unies ne se sont pas donnés pour rétablir la paix et la sécurité internationale. Voilà la première analyse que je peux faire de manière globale sur ce que nous attendions des Nations Unies par rapport aux objectifs principaux que les États se sont assignés en 1945.
Parlons maintenant de la RDC. Les Nations Unies ont commencé à assister ces pays dès son accession à l'indépendance. L'ONU a aidé la RDC à sortir de la crise qui a duré 5 ans entre 60 et 65. La MONUC a aidé la RDC à se réinitier. La MONUSCO a permis de défaire la rébellion du M23 en 2012. Mais depuis 2014, les tueries sont quasi quotidiennes à Beni, au nord Kivu et à Ituri. L'insécurité récurrente au sud Kivu. Comment vous comprenez qu'à certains moments, les Nations Unies font des exploits en mettant fin à certaines crises, mais il arrive aussi des moments où, suite à la persistance de l'insécurité, comme c'est le cas en RDC, l'on parle de l'inaction des Nations Unies à travers la MONUSCO.
Bon, je vais analyser la question sous deux épisodes. Le premier épisode, c'est en 1960, comme vous l'avez dit. Lorsqu'il y a eu des crises, un peu comme le climat d'aujourd'hui qui s'apparente à ce que nous avons connu en 1960, eh bien, les Belges voulaient intervenir parce qu'il y avait une mutinerie, il y avait des gens qui s'apprenaient au blanc par l'indépendance que nous avions obtenue. C'est ce qui a fait que la RDC, à cette époque, s'était adressée à l'ONU pour demander une force de maintien de la paix pour aider à stabiliser et à lutter contre cette sécession katangaise qui avait commencé. Donc, par rapport à ce premier épisode, on peut noter effectivement que l'ONU a aidé les pays à ne pas se diviser en plusieurs morceaux, sinon on aurait un Katanga qui était devenu un pays aux années 60. Mais la mission a duré peut-être que 4 ans, avec ce bilan positif d'avoir maintenu la RDC comme un pays uni. Alors, le deuxième épisode, c'est celui qui part de 99 à aujourd'hui, ça fait 21 ans. Là aussi, on doit noter quelques périodes. Lorsqu'on voit de 1999 en 2006, les Nations Unies ont beaucoup aidé pour nous accompagner à ce que nous arrivions aux premières élections avec le Comité international d'accompagnement de la transition, la logistique qui a été fournie pour que nous allions aux élections. Tout cela, c'est un bilan largement positif de l'appui des Nations Unies au niveau de notre pays. Maintenant, sur le plan sécuritaire, on doit s'interroger sur les résultats qu'on a atteints. Est-ce que réellement, on a rétabli la sécurité? Je dirais totalement non. Parce que c'est avec les Nations Unies que nous avons compté des milliers de problèmes. À l'ouest ici, nous avons connu des Boudoudia Congo, des Inyele, au centre de Kamwena Sapu. À l'est, ce sont des FDLR, des Maïmaï, des CNDP, des M23. Au nord, ce sont les Mbororo, ce sont les FRPI à Ituri, ce sont les Kodeko aujourd'hui, les Katakatanga. Donc, à part les faibles résultats sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, nous devons noter quand même beaucoup d'avancées, beaucoup de résultats auxquels on est arrivé, parce que qu'il s'agisse du Nord Kivu, de l'Ituri ou du Katanga, nous avons connu jusqu'à 1 million, 2 millions de déplacés, et c'est grâce au système des Nations Unies, effectivement, qu'on a pu aider ces milliers de déplacés dans les camps en fourniture d'eau, en fourniture de vivres, de non-vivres. Sinon, si cette aide n'était pas fournie à ces millions de Congolais, eh bien, on assisterait à la catastrophe parce que le gouvernement congolais n'était pas capable de venir en aide à tous ces millions de déplacés que nous avons connus. Donc, sur le plan humanitaire, je dois noter que l'apport des Nations Unies a été d'une utilité très très importante pour sauver des vies humaines en République démocratique du Congo.
Voilà, l'autre aspect, c'est le mandat des Nations Unies. Hein. Parmi les mandats que la MONUSCO a dans ces pays, il y a celui relatif à la protection des civils. Et quand vous-même vous observez ce qui se passe dans l'est de la RDC, comment vous évaluez la mise en application de ces mandats de protection des civils?
Oui, le mandat des Nations Unies souffre d'une chose, c'est que lorsque les États votent les résolutions, ils sont frappés par une peur d'engager effectivement les casques bleus dans les combats de face à face. C'est ainsi que depuis plusieurs années, on n'avait jamais eu une force comme celle de la brigade d'intervention ou comme celle d'Artemis, parce que même l'Artemis, qui avait été une force au niveau de l'Ituri, avait été sous la bénédiction des Nations Unies, mais ce n'était pas des forces de casque bleu des Nations Unies en vrai sens. Donc la peur des États d'engager les soldats des Nations Unies dans le combat de face à face, dans le combat frontal, fait que effectivement les Nations Unies n'arrivent pas à atteindre cet objectif de protection des civils. Ça s'apparente comme une sorte de force qui observe, qui s'interpose, mais qui n'agit pas. On l'a vu par exemple lorsque la ville de Goma a été investie momentanément par les éléments du M23, il y a une sorte de cohabitation entre les forces des Nations Unies et les éléments du M23. Lorsque vous allez dans les fins fonds des villages, qu'il s'agisse de l'Ituri, qu'il s'agisse de partout au sud de Kivu, partout où la MONUSCO a été, on a vu une sorte de cohabitation en fait entre les forces des Nations Unies et les groupes armés, avec une propension à chercher à négocier avec eux pour les amener à pouvoir quitter la brousse au lieu de les affronter pour les neutraliser. C'est ce qui a fait qu'au niveau de la population, effectivement la perception est celle que les Nations Unies ou les forces des Nations Unies n'apportent pas réellement la paix, parce qu'elle semble plutôt vivre avec l'ennemi que de l'affronter frontalement, si vous permettez la tautologie.
Merci, monsieur le ministre. Nous vous gardons encore dans cette émission. Professeur Jacques Joly, vous êtes député national, inspecteur général du parti politique MLC. Vous êtes professeur des droits constitutionnels et ancien vice-président de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Est-ce que vous êtes là, professeur Jacques Joly?
Je vous écoute.
Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Et lorsque vous voyez l'évolution de la situation sécuritaire internationale depuis 75 ans, depuis que les Nations Unies existent, vous pensez que cette organisation intergouvernementale a réussi à relever les défis sécuritaires auxquels le monde fait face depuis longtemps?
Mais je crois que il faut reconnaître à cette organisation internationale la deuxième de genre après la Société des Nations, quelques éléments positifs dans la construction de la paix et la sécurité internationale qui est des semi-faits essentiels. Nous nous rappellerons les prix et les efforts de cette organisation déjà en Corée, mais il y a aussi toutes les interventions au Liban, en Chypre, et au Kosovo, tout comme ici chez nous, dans la plupart des États africains, dans la République démocratique du Congo. Mais comme toute organisation, si elle a présenté un certain nombre de forces, il y a aussi des faiblesses. Et la faiblesse principale qui est compréhensible, c'est que c'est une force qui est très liée au travail des États, à la volonté des États. Donc, les Nations Unies ne sont pas là pour prendre la place des États, mais au contraire pour véhiculer une vision de construction de paix, peut-être pas d'un gouvernement mondial, mais d'une gouvernance mondiale. Et c'est là où il faut reconnaître, comme vient de dire notre frère Paluku, les efforts des Nations Unies, notamment en République démocratique du Congo. Mais en 1960, à nos jours, ce sont les faiblesses de notre propre capacité étatique. Déjà en 1960, les conflits sont d'abord des conflits de la faiblesse, voire de la faillite de l'État. Et il est à ce moment-là difficile de croire que en Somalie comme au Soudan du Sud, tout comme ailleurs, au Mali ou ailleurs, les forces des Nations Unies vont remplacer l'État. Il est d'abord important, lorsqu'on se nomme État, d'assumer sa propre souveraineté, de faire des efforts pour avoir la capacité de protéger ses habitants. Donc les forces des Nations Unies sont là pour nous appuyer, et si nous croyons que ces forces vont remplacer nos États, c'est là où il y a erreur. C'est ainsi que nous voyons leurs difficultés. On l'a vu à l'époque à Bunia, où on a dû recourir à l'Union européenne. On le voit à Ninem aujourd'hui, il y a deux bases de forces de la MONUSCO, mais qui ne parviennent pas. Et voilà plus de 60 ans que nous avons toujours ces forces, au début de notre indépendance, nous avons tenté de faire des efforts après l'indépendance. Il ne faut pas oublier qu'il y a un secrétaire général des Nations Unies qui a perdu sa vie, M. Dag Hadjamadjok, pour la paix au Congo. Et je pense à tous ces casques bleus qui sont en train de payer un prix très fort à Beni ou ailleurs. Donc, nous allons faire en sorte que l'espoir suscité par cette organisation internationale, que cet espoir soit toujours là, mais cela ne doit pas faire oublier notre responsabilité lorsque nous créons que nous sommes un État souverain, de nous donner les moyens pour assurer nos missions régaliennes.
Oui, professeur, les difficultés liées à la situation sécuritaire et socio-économique de la RDC et des pays limitrophes sont à la base du nombre croissant de déplacés internes qui se comptent en termes de millions. Vous avez suivi le gouverneur Julien Paluku. Et il y a aussi des millions, n'est-ce pas, des réfugiés sur le territoire congolais. Et du coup, il se pose cette problématique de la gestion, n'est-ce pas, de ces personnes. Et à votre avis, s'il faut évaluer l'action humanitaire des Nations Unies en RDC, qu'est-ce que vous diriez?
Mais moi, je suis toujours en train de dire que le nombre exponentiel de ce qu'on peut appeler des désespérés ou des cas humanitaires, c'est le fruit de notre incapacité d'abord. Lorsqu'il y a eu la situation au cœur du Kasaï, où on a perdu deux experts des Nations Unies, ou ce qui se passe au Katanga dans la région de Tanganyika, ou ce qui se passe à Beni, Butembo et autres, la crise humanitaire, le nombre élevé de déplacés internes, de mal nourris, c'est d'abord notre responsabilité. C'est vrai que l'apport de la communauté internationale est là, mais si nous allons commencer à être rigoureux envers les Nations Unies, envers la communauté internationale. Mais pourquoi nous devons nous appeler un État? Ces conflits-là, c'est d'abord les déficits de nos propres capacités, à la fois de gouvernance globale, mais aussi de gouvernance sécuritaire. Les Nations Unies veulent bien partir. J'ai parfois suivi avec beaucoup l'intérêt, les débats pour dire que oui, la MONUSCO a trop duré, c'est une mission qui a plus de 20 ans, elle doit partir, mais c'est vrai, elle doit partir cette mission. Mais pourquoi nous ne réussissons pas, nous, à faire la réforme de notre propre système de sécurité, avoir des capacités militaires, avoir les appuis nécessaires? Vous savez, à l'Est, tout le monde se déplace avec le moyen des Nations Unies. Mais ce n'est pas les Nations Unies qui nous empêchent d'avoir des routes qui vont d'ouvrir à Minembo, c'est pas les Nations Unies qui nous empêchent de gérer la présence des Dazef Nalou depuis plus de 20 ans. Donc les crises humanitaires sont les conséquences de crises sécuritaires, je dirais des crises de gouvernance et de gestion. Donc un État réduit à être pris en charge humanitairement pendant plus de 60 ans, c'est un État, comme quelqu'un dirait, un État bébé. Alors que nous avons des capacités, au lieu de perdre nos énergies dans la chamaillerie autour du pouvoir, nous devions nous occuper de la protection, de la sécurité de nos frères et du développement de notre pays.
Oui, professeur, au-delà, n'est-ce pas, de la faillite de l'État, aspect que vous venez de développer ici, la persistance de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC, et qui est à la base de l'insécurité dans cette partie du pays, en dépit de la présence, n'est-ce pas, des forces de la MONUSCO, à votre avis, cette persistance pourrait être attribuée à quoi? Vous avez évoqué la faiblesse de ces forces des Nations Unies, vous dites que c'est des forces qui sont très liées à la volonté des États, et donc vous êtes du même avis que ces analystes qui explique cette persistance de l'insécurité par les contradictions entre les grandes puissances au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Mais les États, mon cher ami, n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts. Qu'est-ce que les États-Unis ou la Chine ont à gagner à perdre leurs enfants, leurs fils dans des conflits oubliés, dans des conflits ataviques, archaïque qui se passe à l'Est entre des tribus qui se disputent les terres au nom de l'antériorité, de l'autochtonie ou de l'autre. Donc ça, ce sont des questions essentielles. Mais je suis d'accord avec vous, mais comme je crois que Tevena dit, quelle est la philosophie de force des Nations Unies qui sont déployées dans la plupart des conflits au monde? Vous verrez que la plus vieille mission internationale, la FINUL, est là pratiquement depuis la première guerre israélo-arabe. Mais jusqu'au pour aujourd'hui, la FINUL est toujours là. Ce n'est pas parce que la FINUL veut rester, mais parce que les États et la communauté internationale ne parviennent pas à résoudre la crise entre le Liban et Israël. La même chose autour de la Méditerranée, entre la Turquie, le Chypre et la Grèce, autour de la mission qui est déployée, il appartient à ces États-là de résoudre la question. Et tout comme chez nous, la philosophie de force des Nations Unies, c'est sont des missions de paix. C'est vrai que par moments, leur comportement est ambigu parce qu'ils ne font pas les missions prévues par le chapitre 7 de mission d'imposition de paix. Ils sont pratiquement dans la mission qu'on dit six et demi, c'est-à-dire qu'ils cherchent des solutions et c'est qui crée l'ambiguïté. Parce que comment comprendre, mon cher ami, que alors qu'il y a quelques années, on avait plus ou moins 30 groupes armés, aujourd'hui, il y en a plus ou moins 130 ou 140. Et tous ces groupes armés qui naissent, c'est sous la barbe des Nations Unies. Mais ce n'est pas aux Nations Unies de faire la guerre. Je comprends leur ambiguïté, mais c'est à nous d'assumer nos responsabilités.
Merci, Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et comment vous analysez l'action des Nations Unies sur le plan mondial au vu de l'évolution de la situation sécuritaire sur le plan international?
Merci beaucoup, Guy Maté. Je salue également le co-débatteur. Donc, à ce qui me concerne, l'évaluation des actions des Nations Unies dans le monde, à ce qui concerne la sécurité, est globalement positive. Pourquoi? Puisque les Nations Unies ont contribué quand même à avoir un équilibre. Les Nations Unies ont empêché, dans les différentes régions, à ce que nous puissions avoir des conflits armés de grande ampleur qui peuvent nous conduire à des guerres mondiales. Puisqu'il ne faut pas oublier que les Nations Unies ont été mises en place, créées après la Deuxième Guerre mondiale. Et il fallait empêcher une Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire un déséquilibre total de la communauté internationale. Et sur ce point, les Nations Unies ont empêché ça. Comme je disais, les bilans sur le plan mondial, international, est globalement positif. Mais quand je dis globalement positif, je ne vais pas dire qu'il manque de défis, qu'il manque des insuffisances. Des défis existent toujours, puisque les Nations Unies, parmi ces défis, c'est des questions liées à une vision, à une action commune. Donc, ces Nations Unies, parmi ces défis importants, c'est la politisation de l'organisation. Donc, l'organisation, sur certains points, est devenue trop politique, plutôt que de se concentrer sur les questions de paix. Mais ça, c'est des défis. Mais globalement, il n'y a pas un déséquilibre qui pourrait nous amener à penser à un désordre et une guerre mondiale. Mais il y a eu quand même des défis, il y a eu quand même des insuffisances qu'on peut relever par-ci, par-là. Donc, mais globalement, pour moi, l'action mondiale est positive. Donc, l'équilibre du monde est encore préservé. L'empêchement des guerres à caractère régional, à caractère international, qui impliquent plusieurs personnes, qui peuvent nous conduire à une insécurité internationale aggravée, on n'a pas encore connu ça. Et donc, ça, c'est une action positive.
Alors, revenons maintenant en RDC. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la MONUSCO n'a pas assez fait pour pacifier et stabiliser l'est de la RDC, d'autant plus que l'insécurité persiste dans cette partie du pays?
Je dirais que sur l'action sécuritaire de la MONUSCO à l'est ou dans l'ensemble du pays, à mon avis, le bilan est mitigé. C'est qu'il y a eu quand même des points positifs. Hein. Parmi les points positifs, il y avait l'unification de l'État congolais. Hein. Moi, je vis à Kisangani, à l'est du Congo. Donc, on a connu à des moments très difficiles où il y a eu des zones de non-droit, les rébellions. Donc, un, l'unification de l'État congolais. Deux, la réduction des groupes armés. Hein. On n'a plus le même nombre de groupes armés qu'on avait. Et puis, l'ampleur, la gravité des exactions
commise, donc je dirais la dangerosité des groupes armés est plus ou moins réduite, hein, à l'exception des ADF Nalou et des autres. Troisièmement, la MONUSCO, la MONUSCO a contribué largement à la formation d'une armée nationale. Quels que soient les défis que nous avons, mais l'unification de ces différents groupes armés qui venaient tantôt du MLC, tantôt du RCD, tantôt du RCD KML, tantôt de groupe Mai Mai avec les FAC, donc c'est quand même un appui. Et puis la diminution quand même des exactions comme des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, il y a quand même une diminution de ces exactions, ça c'est un paramètre quand même d'évaluation. Et cinquième paramètre pour moi d'évaluation qui est en faveur de la MONUSCO, c'est la réduction également des espaces de non-droit, c'est-à-dire qu'ils sont à la merci des groupes armés comme des États, donc ce sont des entités non étatiques. Le nombre des entités non étatiques ont quand même réduit. Et ensuite, ce qui est positif, c'est le contrôle républicain, de la dépolitisation quand même de l'armée. Bon, je ne dis pas dépolitisation, mais j'ai dit quand même qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Bon, à côté de ces succès-là, de points positifs, il y a quand même des points, je dirais, d'insatisfaction. Pour ne pas dire d'échec, mais je dis d'insatisfaction. Et parmi les points d'insatisfaction, c'est aujourd'hui obtenir la collaboration. Donc, la collaboration des autorités congolaises. J'ai suivi mes prédécesseurs qui ont parlé de ces problèmes de l'État, la souveraineté de l'État. Il appartient à l'État congolais. Mais comment obtenir la collaboration de l'État congolais? La MONUSCO, là, la collaboration a été quand même, je dirais, assez ponctuelle. Il y a des moments où elle a cette collaboration et il y a eu des moments où la MONUSCO n'a pas eu cette collaboration. Je peux dire, à un moment donné, l'armée congolaise a refusé de collaborer avec la MONUSCO, ce qui n'a pas permis à la MONUSCO d'avoir des résultats positifs. À ce qui concerne la brigade, la fameuse brigade d'intervention spéciale, c'est une première dans l'histoire des opérations de maintien de la paix qu'on crée une brigade avec le mandat autonome propre de neutraliser les groupes armés. Alors là aussi c'est un échec. Aujourd'hui on va évaluer la nécessité. Aujourd'hui la brigade d'intervention en dehors de la MONUSCO, puisque cette brigade a été créée comme une brigade autonome avec le mandat d'aller seul ou avec le gouvernement pour neutraliser les groupes armés. Mais on a vu que la brigade n'a fait que ça une fois contre l'M23. Mais par rapport aux ADF, aux autres groupes, on se pose des questions sur l'importance de cette brigade, la présence et le rôle de cette brigade autonome au sein de la MONUSCO.
Dis-moi.
Et moi, je... Oui.
Et quel est le bilan que vous faites de l'assistance de la MONUSCO au gouvernement congolais par rapport à la lutte pour la promotion des droits humains? Et je sais que vous êtes vous-même défenseur des droits de l'homme. C'est quoi le bilan que vous faites par rapport à la promotion, n'est-ce pas, des droits humains en RDC?
Je couple les deux, hein, promotion et protection. Le bilan de la collaboration de la MONUSCO, de la contribution de la MONUSCO est largement positif. Largement positif puisque les droits humains au sein de la MONUSCO ont permis que la RDC, je peux résumer ça, notamment d'abord à ce qui concerne la documentation de violation des droits humains, du droit international humanitaire, grâce à la MONUSCO, il y a une base de données importante. Et lorsqu'on parle de droits humains et la question est d'actualité, on peut donner l'exemple aussi de cette documentation formidable, grandiose, faite par les Nations Unies, c'est les rapports mapping. Les rapports mapping aujourd'hui, c'est devenu une base de données importante, mais c'est grâce aussi à la présence de la MONUSCO que nous avons eu ça. Deuxième catégorie aussi, c'est à travers la lutte contre l'impunité. Si nous avons eu quelques progrès, j'ai dit il y a des défis, mais quelques progrès tels que l'arrestation, les transferments de certaines personnes. En Ituri, par exemple, c'est grâce à la MONUSCO, avec le travail que la MONUSCO a fait et la coopération entre la MONUSCO et la Cour pénale internationale, qu'il y a eu Thomas Lubanga et consort. Mais le défi important de la MONUSCO, c'est toujours l'inadéquation entre le mandat qui est très fort et les moyens qu'on donne à la MONUSCO pour réaliser son mandat.
Merci, Monsieur le ministre Julien Paluku. Vous allez réagir à ces points de vue donnés par cet auditeur qui nous a appelé de Kananga, Nestor Mwepu.
Un instant, il faut 4 mois pour Akananga dans la province du Kasai Central. Le bilan de la présence onusienne en RDC est salutaire sur le plan humanitaire, dans le sens qu'elle a eu à aider la population, surtout celle qui est victime de guerres et d'abus sexuels. Cependant, sur le plan sécuritaire, beaucoup reste encore à faire pour la pacification du pays, qui pose toujours des problèmes.
Monsieur le ministre, je n'ai pas le coup.
Oui, merci beaucoup, Monsieur Nestor. Je rejoins effectivement la première analyse que j'ai pu faire il y a quelques instants pour dire que, avec la situation que la RDC a connue, évidemment, sur le plan humanitaire, il y a eu beaucoup de déplacements, les gens qui se sont regroupés dans des camps presque de concentration, et c'est à travers les 22 programmes des Nations Unies avec les agences, les fonds, les agences spécialisées comme le PAM, l'OCHA, qu'on a pu venir à bout de cette crise, sinon elle serait explosive et on assisterait à des millions de morts. J'ai à le rappeler. Sur ce plan-là, je crois qu'il y a eu des avancées. Par contre, sur le plan sécuritaire, bien que les Nations Unies n'aient pas le mandat de devoir résoudre les problèmes sécuritaires, sur ce point-là, il y a quand même à dire, parce que beaucoup de groupes armés, beaucoup de mouvements rebelles se sont multipliés pendant que les Nations Unies, je l'ai dit, sont présentes en République démocratique du Congo. Mais là, on voit bien sûr les mandats qu'a ou qu'ont les Nations Unies dans notre pays. C'est pourquoi, lorsqu'on fait une analyse objective, il y a deux types de perceptions. La perception de Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur Tout-le-Monde qui pense que lorsqu'on entend les forces des Nations Unies dans notre pays, c'est le monde entier qui vient nous aider, et Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas comprendre comment le monde entier présent en RDC n'arrive pas à éliminer le problème. Ça, c'est la perception de Tout-le-Monde. Mais la perception des initiés, effectivement, qui savent les mandats des Nations Unies, qui savent les objectifs que les Nations Unies se sont assignés, cette perception est nuancée. Parce qu'elle sait voir les mandats des Nations Unies par rapport à ses limites, par rapport à ses compétences, par rapport à ce que l'État doit faire. Alors pour moi, s'il advenait que je donne un conseil après 75 ans de l'existence des Nations Unies, je demanderais aux Nations Unies de changer le paradigme d'utilisation de ces fonds. Je donne un exemple. Lorsque les Nations Unies en RDC ont un budget de 1 milliard de dollars, si par exemple les Nations Unies prenaient ne fût-ce que 10% pour appuyer, accompagner à la restructuration de l'armée, ces 100 millions de dollars que les Nations Unies donneraient chaque année permettraient effectivement d'accompagner et la police et l'armée en termes d'appui, en termes d'équipement, et au bout de 10 ans, 20 ans aujourd'hui, si on prenait les 100 millions qui constituent les 10% du budget des Nations Unies, eh bien, on aurait accompagné et la police et l'armée avec près d'un milliard de dollars. Alors, imaginez-vous si les Nations Unies avaient injecté ces 1 milliard de dollars dans l'accompagnement, la restructuration, la formation de l'armée et de la police, eh bien, on aurait rejoint la thèse du professeur Joly qui dit, au lieu de s'attaquer aux problèmes humanitaires, on doit s'attaquer à la cause qui est l'insécurité. Parce que si on vide les questions sécuritaires, eh bien, on aura vidé ipso facto les conséquences qui sont effectivement les problèmes humanitaires.
Et donc, c'est ce que vous proposez pour améliorer l'action de la MONUSCO en RDC?
Moi, ce que je propose concrètement pour améliorer l'action de la MONUSCO en RDC, c'est de consacrer seulement 10% de ce budget à accompagner les forces armées et la police. Parce que dans les mandats des Nations Unies, il y a l'accompagnement de la réforme du système de sécurité. Alors, on ne peut pas accompagner cette réforme du système de sécurité constituée à la fois de l'armée et de la police, sans oublier bien sûr la justice et d'autres éléments qui constituent les pouvoirs régaliens de l'État, on ne peut pas le faire sans le budget.
Oui, vous ne pensez pas qu'un autre élément pour améliorer l'action des Nations Unies en RDC, c'est la question que vous avez évoquée, cette peur d'engager les forces dans les combats frontaux. Vous avez suivi même le professeur Jacques Joly évoquant les faiblesses des forces des Nations Unies. Il a dit que ce sont des forces qui sont très liées à la volonté des États. Est-ce qu'on ne peut pas, comme l'a proposé le prof Jacques Joly, essayer de repenser la philosophie, n'est-ce pas, des forces des Nations Unies déployées, et pas seulement en RDC, mais à travers le monde?
Évidemment, là, on se buterait à la volonté des États qui ne voudraient pas voir leurs hommes mourir chaque jour sur le terrain de combat à travers le monde. C'est la raison pour laquelle, à côté de cette proposition qui est aussi noble, je formule la mienne pour dire, si les États auront peur d'engager leurs hommes qui viennent intervenir dans un pays, alors il faudrait que les Nations Unies votent maintenant des budgets pour directement accompagner les forces locales de manière à les professionnaliser, ce qui permet de renforcer leurs capacités et d'affronter leurs problèmes et d'accepter de mourir pour leurs propres problèmes que de vouloir engager des gens qui auront peur de mourir pour autrui. Voilà pourquoi moi je suis pour plutôt la deuxième proposition.
Merci, professeur Jacques Joly. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de M. Moïse Anghi.
Moïse Anghi, depuis deux mois au long civil. Les Nations Unies en général font quand même un travail visible et remarquable, surtout avec ces organes techniques qui interviennent dans le secteur du développement et surtout dans le cadre humanitaire. Quelque chose qu'il faut applaudir, standard particulièrement sur le plan sécuritaire, le bilan de la MONUSCO reste mitigé, négatif et insuffisant. Il va falloir que sur le plan de la nation, venir revoir une stratégie ou carrément retirer la MONUSCO progressivement.
Professeur Jacques Joly.
Mais je comprends la préoccupation de notre ami, effectivement, comme nous le disons tous. Sur le plan humanitaire, la mission des Nations Unies tente de faire ce qu'elle peut et avec la satisfaction, du moins, n'est-ce pas, de la population. Mais la persistance de l'insécurité face à la présence de bases des Nations Unies sur le territoire jette une perception négative sur l'action des Nations Unies. Et pour comprendre cette inaction, il faut savoir que dans la logique des Nations Unies, le droit de légitime défense n'est pas éliminé de l'action des États. L'article 51 de la Charte des Nations Unies donne aux États le droit de légitime défense ennemie d'assurer leur sécurité. Et par contre, croire que les forces des Nations Unies feront la guerre pour nous, vous voyez très souvent que ce sont des forces des pays asiatiques et même des pays africains qui viennent. C'est-à-dire c'est une sous-traitance de grandes puissances qui ont des problèmes d'opinion chez eux pour envoyer leurs troupes aguerries. Ce sont des Bangladeshis, ce sont des Pakistanais, ce sont des Indiens. Je ne dis pas que ce sont des armées faibles, mais ce ne sont pas les troupes d'élite comme on a vu par exemple avec le fort à Bounia, ou des armées des pays de la SADC qui ont voulu nous aider, n'est-ce pas, pour résoudre la crise de M23. Donc, moi, je continue à croire que nous devons, nous, Congolais, développer un concept stratégique, une vision stratégique de notre sécurité nationale, et à ce moment-là, comme disait le ministre Paluku, nous pouvons maintenant négocier de manière rationnelle avec la MONUSCO et les Nations Unies sur un plan à court, moyen terme de renforcement des capacités de nos unités de police, de nos unités de forces armées et le départ. Jusqu'à présent, ce sont des négociations fragmentées. Là, on nous dit qu'on a quitté l'Ouest pour se concentrer à l'Ouest. Déjà, on parle du départ de troupes du côté du Katanga et autres. Mais quel est le concept, quel est le mécanisme opérationnel que nous, Congolais, nous mettons nous-mêmes en place dans la montée en puissance de notre armée?
Et à votre avis, professeur, que faut-il faire pour améliorer l'action de la MONUSCO en RDC? Et le ministre Julien Paluku a proposé que les Nations Unies puissent changer leur paradigme d'utilisation de leurs fonds en affectant une part à l'assistance des forces de sécurité nationales.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais ça doit être sous-tendu par un plan national de réforme de l'armée où il y a appropriation du peuple congolais et des autorités congolaises. On peut vous dire que depuis la fin des négociations de Sun City, nous avons connu plusieurs plans et le dernier plan qui était 2015-2020, voire 2025, 10 ans, n'est pas toujours appliqué parce que il n'y a pas de ressources. Donc il appartient au gouvernement congolais de négocier avec les Nations Unies ces plans qui peut être donc les transferts de ces 1 milliard systématiquement vers les forces armées. Le plan de réforme des forces armées, sa mise en œuvre est butée parce qu'il n'y a pas une loi de programmation militaire.
Merci.
Parce que on estime qu'il n'y a pas de moyens pour une réforme qui doit coûter plus ou moins 8 milliards. Alors, il faut une action forte de la République démocratique du Congo, sinon nous aurons toujours à nous prendre comme en 1960 de l'ONUC, et après c'est la MONUC, après c'est la MONUSCO, et quelle force viendra encore? Nous allons aller demander des secours aux Tanzaniens, aux Zimbabwéens, aux Botswanais, aux Sud-Africains. Il faut que nous assumions notre sécurité, que nous ayons un concept qui fasse que la MONUSCO soit dans les discussions qu'il y a chaque année d'ailleurs.
Merci pour cela.
Venez pour un schéma global d'appui au plan de réforme. Donc, tout est question de notre volonté politique et de nos capacités de projection de notre sécurité nationale.
Dismas Kitenge, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
Moi, c'est Axel Kanga. Je vous appelle depuis la province du Haut-Katanga. Pour moi, je pense que le bilan de la MONUSCO est trop négatif, car depuis que la MONUSCO est en RDC pour sa mission de paix, la population de l'Est ne cesse de subir avec les massacres de plusieurs groupes armés, notamment l'ADF et autres.
Dismas Kitenge.
Merci beaucoup, je comprends l'auditeur. Comme je venais de dire tout à l'heure, que la MONUSCO a eu quand même des points positifs, mais il y a eu aussi quand même des points d'insatisfaction. Parmi ces points, il y a aujourd'hui cette brigade d'intervention spéciale qui ne fait pas son travail comme il faut, alors que d'une façon autonome, elle a le mandat de neutraliser les groupes armés. Mais il y a aussi ces déficits de collaboration du gouvernement congolais vis-à-vis de la MONUSCO. Le gouvernement congolais doit coopérer avec la MONUSCO puisque les forces de la MONUSCO doivent travailler avec le gouvernement congolais. Mais ce que j'avais entendu, je veux aussi réagir. La MONUSCO n'est pas un bailleur de fonds. La MONUSCO ne peut pas financer la réforme de sécurité, mais peut aider un peu. Et il y a aussi des défis très importants. Et si on veut améliorer la situation, il faudrait, comme je dois le dire, renforcer la coordination, la concertation de la communauté internationale qui doit appuyer aussi les efforts de la MONUSCO, mettre en place des indicateurs d'évaluation objectifs du travail de la MONUSCO des mandats et contribuer à la démocratie, à l'état des droits de l'homme, impliquer également les populations locales, avoir des approches innovantes et locales de résolution des crises et avoir un mandat réaliste et donner des moyens conséquents à la MONUSCO. Puisqu'on donne parfois un mandat trop fort à la MONUSCO, un mandat qui couvre beaucoup de secteurs, mais avec des moyens très limités. Et ça, c'est du côté du Conseil de sécurité de la communauté internationale qu'il faut voir. Et le Congo aussi doit assumer sa responsabilité à ce qui concerne les questions de sécurité, à ce qui concerne même les appuis humanitaires. Puisque ce sont des aides, ce sont des appuis qui ne vont pas remplacer quand même les attributions d'un État et le rôle d'un État.
Dismas Kitenge, nous sommes à la fin de l'émission. C'est quoi votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que le bilan de la MONUSCO est mitigé. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects quand même d'insatisfaction. Nous devons prendre, et c'est une œuvre humaine, c'est une institution qui a des moyens limités, qui ne pouvait pas tout faire, mais il faut qu'on songe à les renforcer. Renforcer par la communauté internationale, les conseils de sécurité qui doivent revoir ces moyens, comme je disais, mais aussi l'État congolais qui Merci. Doit avoir une collaboration franche.
Merci, Monsieur le ministre Julien Paluku, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'État congolais doit déclarer comme priorité nationale la sécurité et l'intégrité du territoire pour amener les autres partenaires à se greffer sur sa politique, notamment la MONUSCO, avec ma proposition de dire prendre une partie de son budget, l'affecter sur le financement et l'accompagnement de nos forces armées et de la police, et bien entendu, après une loi de programmation militaire, comme l'a si bien rappelé le professeur Jacques Joly.
Professeur Jacques Joly, votre conclusion?
Les Nations Unies ont 75 ans, nous pouvons que nous féliciter de l'espoir qui est né après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, effectivement, on peut dire qu'il n'y a plus de guerre mondiale, mais la guerre n'a pas disparu, et surtout n'a pas disparu au Congo durant 60 ans. Il est donc important que les outils d'imposition de la paix ou des actions collectives ou de sécurité collective doivent être améliorées au niveau des Nations Unies pour sortir de l'ambiguïté, mais il est aussi important que nous, Congolais, nous puissions savoir que la sécurité est d'abord un devoir constitutionnel, un devoir patriotique de tout citoyen, mais surtout de tout État. Et on ne peut pas comprendre que nous puissions rester plus de 60 ans incapables de protéger nos sœurs contre les viols, de protéger nos enfants contre les tragédies. Il faut que nous nous assumions, mais avec une vision claire de l'apport de la communauté internationale dans ces schémas globaux.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de l'émission. Merci à Polydore Basmouza qui était à la technique. Merci à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.